Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de Culture Générale Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School. Je me trouve aujourd'hui avec Camille Dumollier. Camille Dumollier, bonjour. Vous êtes donc professeur émérite de littérature comparée à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste des rapports entre la littérature, la philosophie et la psychanalyse. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage à destination des étudiants de prépa commerciale, donc sur le thème du désir. Pour ce quatrième et dernier podcast avec vous, Camille Dumollier, nous allons donc parler de l'économie libidinale, c'est-à-dire la place du désir dans la politique et dans l'économie.
Je voudrais évoquer la question de ce que j'ai appelé, après d'autres, l'économie libidinale, c'est-à-dire la place du désir dans la politique et dans l'économie. Et ceci va nous conduire plutôt vers l'époque contemporaine et des réflexions contemporaines. Encore que, on trouve une réflexion là-dessus dès Platon, qui dans la République parle peut-être vous souvenez-vous que Platon étudie tous les régimes, depuis le meilleur qui est le du philosophe roi, etc., jusqu'au plus bas des régimes qui est la démocratie pour lui, parce que Platon était un aristocrate qui détestait la démocratie. Et comment définit-il la démocratie? Eh bien, comme le régime du désir, de ce fameux épitumia. Et on laisse libre cours au désir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on en laisse libre cours à tous les désirs? Eh bien, si j'ai pu dire, excusez-moi, c'est le bordel. D'ailleurs, c'est pour ça, les bordels. Et alors, à un moment, il y a un tel désordre dans la démocratie que le peuple va appeler un tyran. Et ce tyran va être, au fond, l'émanation de tous les désirs généraux qu'il va incarner. Et comme le dit Platon, le tyran est un homme lui-même tyrannisé par ses désirs. Et il va exprimer les désirs les plus fous, les plus criminels. C'est le régime le pire, je disais que c'est la démocratie, mais en fait c'est la tyrannie qui hérite de la démocratie comme, selon lui, régime de désordre, et qui va être l'homme du désir total, et qui va, il dit même, par exemple, ce dont nous rêvons, par exemple, coucher avec sa mère, donc on voit qu'il y a une référence à Édipe. Le tyran, lui, il le réalise. Il fait ce qu'il veut, comme Néron. Tout ça. Il met le feu à Rome, quoi que ce soit faux, c'est pas vrai, mais bon, c'est dans l'imaginaire qu'on dit cela. Alors voilà, j'évoque cela pour dire que le lien entre désir et politique et économie, parce qu'il y a aussi la question économique, dont parle très bien Platon, parce que la perte, la dégradation de tous les régimes, c'est le goût de l'argent. Et il le dit très clairement. Il y a là dans la République une réflexion très moderne sur le fonctionnement de nos sociétés, régie par des sortes de fascisme et de tyrannie qui sont à la fois politiques et économiques, parce que à cause de la toute puissance de l'argent. Mais avant d'aborder, revenir à cette question-là du point de vue économique, je voudrais peut-être conclure finalement tout l'ensemble de mon propos pour arriver à cette question de l'économie. C'est à savoir que, eh bien, les Grecs ont pensé que le désir conduisait au bonheur ou au plaisir. Bon. Non, nous l'avons vu, et eux-mêmes le constatent, on va au-delà du principe de plaisir. Les chrétiens pensaient que la libido était diabolique et était donc tournée vers le mal. Bah, nous ne croyons plus au diable. Enfin, je dis ça, peut-être devrais-je, ça c'est très discutable, puisque vous savez que de plus en plus, le monde revient à tous les fanatismes et à toutes les religions, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient islamistes ou ce qu'on voudra. Ah bon, enfin, en tout cas, nous ne pensons pas quand même, sauf George Bush, mais nous ne pensons pas que le diable domine la politique et l'économie mondiale. Alors, le désir n'est pas orienté comme ça vers le mal par le diable, non. Alors, c'est quoi le désir? Alors, ben, c'est quelque chose qui part de rien et qui aboutit à rien. Voilà la chose. Et cela, Lacan, le but du désir, Lacan, il a donné un nom, il a appelé la chose. Das Ding, ça vient de l'allemand. Ça vient en particulier de Kant, qui fait la différence entre la chose en soi et les objets matériels. Le désir, il va d'objet en objet, mais jamais il n'est satisfait. On le voit avec Don Juan, de femme en femme. Il est infini, donc il s'arrête à aucun objet. Et qu'est-ce qu'il cherche? D'un côté, on l'a dit, retrouver les jouissances fantasmées dans l'enfance. Mais c'est un mythe, il n'y en a pas. Freud a dit, complexe d'Édipe, on veut retrouver, qu'on soit homme ou femme, la fusion avec la mère. Non, c'est un fantasme. Lacan, comme Lévi-Strauss, l'ont montré. C'est pas ça qui structure la société. C'est pas l'interdit de l'inceste. C'est au contraire l'obligation d'échanger entre les groupes. Bon. Mais cela crée un fantasme rétroactif où on s'imagine que la liberté du désir, c'est retrouver la mère. Non. Et qu'est-ce qu'il y avait? Alors, qu'est-ce qu'on veut retrouver? Quelque chose qu'on n'a jamais connu. Aucune jouissance réelle. D'où le mot « la chose », qui n'a jamais existé. Et de notre côté, quel est le but? Au-delà de tous les objets qui, au fond, ne nous satisfont pas. Pareil. Rien. Mais on appelle ça la chose. La chose dont certains arrivent à jouir. Les mystiques, par exemple, qui plongent dans le néant de Dieu. Parce que c'est ça qui se révèle. Bon. Qu'est-ce que c'est la chose? La chose, ça vient du mot latin « res », qui veut dire la chose. Et « res », ça donnait « rien ». Comme quoi, voilà, le désir, il part de rien et il va à rien. Et à un moment, dans un texte qui est l'éthique de la psychanalyse, Lacan écrit ceci. Parce qu'il parle des mystiques, il parle de Dieu, et Dieu qui a fait l'homme à son image. Mais alors l'homme aussi, en tant qu'image, c'est par le creux que l'image laisse vide qu'il est intéressant. Par cela qu'on ne voit pas dans l'image. Par l'au-delà de la capture de l'image, parce qu'on est pris par l'imaginaire, le rapport à l'autre, bon. Le vide de Dieu à découvrir. C'est peut-être la plénitude de l'homme, mais c'est là aussi que Dieu le laisse dans le vide. Or, Dieu, c'est sa puissance même que de s'avancer dans ce vide. Voilà le fond de la pensée de Lacan et peut-être de la réalité du désir. J'ajoute une autre formule de Lacan dans l'éthique de la psychanalyse. La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. Et ceci me rappelle des lectures qu'il m'est arrivé de faire de Lao Tzu. Lao Tzu est le fondateur du taoïsme. Il a vécu au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et les textes que nous avons sont plus récents. On les attribue à Lao Tzu, mais enfin, ils sont plus récents. Ils sont des années 220 avant Jésus-Christ. Mais c'est tout de même une des pensées les plus anciennes hein, de la Chine, le fondateur du taoïsme. Et il a écrit, ce livre qui est censé avoir écrit s'appelle le Tao Te Ching, soit le livre de la voie et de la vertu. Et c'est là où tout est régi par le yin, le yang. Il a été le maître de Confucius, dit-on. Bon. Dans ce livre, voici une phrase. Évidemment, alors, les problèmes de traduction sont infinis, mais bon. J'ai pris une traduction, la voici. Il n'y a pas de plus grande faute que de céder à ses désirs. Vous voyez que c'est étonnant, comme c'est exactement le contraire, apparemment, de ce que dit Lacan, que je répète, la seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. En même temps, vous vous souvenez que Lacan parle du vide. Lao Tzu, la pensée du taoïsme, c'est que tout vient du vide et tout va au vide. Mais le vide est une puissance créatrice. Voici ce qu'écrit Lao Tzu. Il y a une chose indistincte avant la formation du ciel et de la terre, silencieuse et vide. Seule est-elle et elle ne change pas. Elle se meut en cercle, libre de toute usure. On peut la considérer comme la mère de tout sous le ciel. Je ne sais pas son nom, je l'appelle la voix, Tao. Autre phrase, tous les êtres sont issus de l'être, l'être est issu du non-être. Alors, on se rend compte que, finalement, ces deux formules, apparemment opposées, sont identiques. Parce que Lacan dit il ne faut pas céder sur son désir. Et Lao Tzu, le pire, c'est de céder à ses désirs. Et c'est là où on va retrouver au fond, la même l'opposition des Grecs entre épithumia, c'est-à-dire les désirs généraux, etc., et puis le vrai désir. Que signifie alors, et quel est donc le désir de l'homme? Eh bien, le désir de l'homme, c'est le désir d'être. Nous voulons être. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas. Nous existons. Que veut dire exister? C'est le propre existere, être hors de, de nous-mêmes, de la situation, du monde. Qu'est-ce qui fait qu'on existe? Le langage. Nous ne sommes pas des êtres d'instinct, ni d'une nature. Nous sommes des êtres de culture par le fait que nous parlons. Parler fait de nous l'espèce supérieure. Et le désir, il passe par le langage. Mais l'être, il passe pas par là. Et ce que nous voulons, c'est trouver notre être perdu dès l'origine. En fait, pas perdu, puisque ça n'avait pas existé. C'est-à-dire la mer, le corps naturel, l'instinct comme les animaux. Mais ça n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous voulons être? Nous vous sortons du langage. Et nous tombons dans quoi? Ben dans le vide. Et voilà comment la chose se boucle. Voilà comment le désir d'être est en fait, a comme conséquence, un désir du vide dans lequel nous nous retrouvons. Alors, quand on prend conscience de cela, il se passe quelque chose de particulier dans la modernité. C'est que la modernité, c'est-à-dire après la Révolution française, voilà comment on peut définir la modernité, nous ne sommes plus des sujets du roi ou d'autres choses, mais nous sommes des sujets libres. Le sujet tel que nous l'entendons maintenant, porteur d'un désir libre. Ce qui est très étrange, c'est qu'à ce moment-là, où nous prenons conscience et où on nous donne, nous avons l'exigence d'être des sujets libres, eh bien, nous ne supportons plus cette liberté. Parce que, justement, nous sommes confrontés à ce désir d'être. Et nous, et dès que nous l'exprimons ou nous nous y lançons, qu'est-ce que nous découvrons? Le vide de l'être qui nous attend. Et alors, on voit que dans cette époque moderne, qui est au fond l'époque du désir libéré, ou de la liberté, l'humanité a passé son temps à se soumettre, à abdiquer son désir, pour se soumettre à des tyrans, au fascisme, et que je ne vais pas maintenant vous expliquer, vous le savez très bien, tous les fascismes du XXe siècle, depuis la terreur révolutionnaire, les hommes ont abandonné leur liberté et leur désir propre pour le soumettre au désir du chef, du tyran, du dictateur. Et voyez qu'on retrouve Platon. Et alors, nous trouvons devant, il y a trois mots qui vont à l'époque moderne résumer le désir. C'est dans les grandes philosophies depuis la Révolution française, l'absurde, l'angoisse et l'aliénation. Absurde, parce qu'il n'y a pas de but du désir, c'est dans le vide. Ça, c'est Schopenhauer, dont s'est beaucoup inspiré Freud. Volonté aveugle qui nous guide et qui nous pousse à rien, dans l'absurdité. Angoisse, qui, depuis Kierkegaard, Heidegger, la psychanalyse, l'existentialisme de Sartre, l'angoisse parce qu'on sait, on sent qu'il n'y a rien au bout de notre désir. Et aliénation. Cette aliénation, c'est ça. C'est que, alors que nous sommes libres et que nous pouvons exprimer notre désir, eh bien, nous nous soumettons à des tyrans et des chefs. Et, à part Platon, il y a quelqu'un qui l'a bien raconté, il y a très longtemps, qui s'appelle La Boétie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit, à l'âge de 17 ans, un texte qui s'intitule « Discours de la servitude volontaire ». Au XVIe siècle, c'était un ami de Montaigne, qui est mort très jeune d'ailleurs, où il dit « Comment se fait-il que les hommes, qui sont si nombreux et si puissants, se soumettent à un chef et acceptent cette soumission ?» Pourquoi ce désir, il dit en ces termes, ce désir de soumission au lieu du désir d'être libre. Nous faisons tout pour avoir la puissance, de l'argent, etc. Mais rien pour être libre. Eh bien, cette question, c'est la question même que nous vivons à l'époque moderne, que nous avons vécu à travers les fascismes, sur lesquels, et dont on peut dire que ce sont des politiques du désir. Car, il faut le répéter, ni Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par la force. Bon, il a été élu démocratiquement. Donc il y a eu un désir des tyrans. Et il en va ainsi de Mao Tse-tung, de Staline et de tous ces criminels qui ont tué des millions d'êtres humains. Ils ont été désirés. Hein, le petit père du peuple et tout ce qu'on voudra. Bon. Alors tout ça, ça peut s'expliquer par la psychanalyse, mais ou par d'autres choses. Mais quand même, il y a eu souvent des textes. Freud a écrit un texte qui s'appelle « Psychologie des masses ». Reich, élève de Freud, « Psychologie des masses et fascisme ». Voilà. Comment la libido, le désir, va produire tous ces régimes.